Le National, deuxième partie. C'est bon pour la santé avec Marianne Paquette, le mercredi à midi et à 17h. Et c'est dans cette émission que nous avons entendu cette semaine Jessica Dessureau, qui est chargée de projet pour la politique des aînés et la politique familiale de Victoriaville, qui nous présentait le projet Picto Sécure, un projet qui pourrait bien inspirer d'autres villes et d'autres intervenants.
On l'a joint du côté de Victoriaville, Jessica Dessureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet pour la politique des aînés et la politique familiale du côté de cette municipalité des Bois-Francs.
Exactement.
Et là, pour nous parler d'un projet en particulier, Picto Sécure, pour la sécurité des personnes aînées. Comment est né ce projet pilote, cette initiative qui est Picto Sécure, Jessica?
En fait, on dit souvent que Victoriaville est une ville inspirante, mais on se laisse aussi inspirer. Alors, pour ce qui est de ce beau projet-là, ça part vraiment de la ville de Repentigny, une association pour les personnes malentendantes qui avait eu cette idée d'aider les premiers intervenants, donc soit en cas d'urgence, on peut parler des policiers, des ambulanciers, par exemple, lorsqu'ils ont à intervenir dans des résidences pour personnes âgées, leur permettre rapidement, d'un seul coup d'œil, de connaître la condition des personnes avec qui ils vont avoir à interagir. Donc, de connaître quelles sont les limitations physiques. Et l'étincelle est vraiment partie de ce côté-là. On sait que c'est un projet qui a été bien implanté à Repentigny et on a décidé de le faire à Victoriaville, à notre couleur bien à nous.
Oui, ça permet, c'est ce que je lisais, d'adapter les interventions, que ce soit des pompiers ou des policiers. On pense ici à quel genre d'adaptation, Jessica?
Oui. Je vais peut-être définir à quoi ressemble pour que les gens se fassent une idée en tête de qu'est-ce que c'est Picto Sécure. En somme, c'est une petite plaquette signalétique qu'on vient poser sur le mur, juste à côté de la porte d'entrée de chacun des résidents. Et sur cette plaquette, on retrouve des pictogrammes, dont le nom Picto Sécure, des pictogrammes qui nous informent sur la personne, à savoir, est-ce que c'est une personne à mobilité réduite? Est-ce que c'est une personne qui a un problème visuel, une déficience ou encore des problèmes pour entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends l'exemple des pompiers qui pourraient toquer à la porte pour ne serait-ce que faire de la prévention pour le détecteur de fumée. Bien, s'il n'a pas de réponse, on va comprendre peut-être qu'il faut cogner un peu plus fort ou s'entendre préalablement avec la personne qui habite le logement. On peut penser en cas d'évacuation, je vais reprendre l'exemple d'une personne malentendante, peut-être que la personne n'entendra pas le système d'alarme. Donc, on sait que c'est des personnes qu'il va falloir rapidement aller rencontrer et apporter notre aide. Ce qu'on est venu faire avec le projet, parce qu'à Repentigny, l'idée d'apposer des pictogrammes vient vraiment d'eux. Eux, ils le faisaient avec des velcros sur la porte. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est créer un outil complet. Donc, on a créé la plaquette signalétique où on a ajouté à ces pictogrammes également un code de couleur. Ce code de couleur, il est déjà commun dans toutes les résidences, j'aurais le goût de dire à travers le Québec. C'est un code de couleur qui parle de l'autonomie. On va jouer avec les feux de circulation. C'est le repère qu'on a tous en tête. Donc, quand on est rouge, on est une personne qui n'est pas autonome pour sortir par nous-mêmes en cas d'intervention d'urgence. Vert, on est capable de descendre des escaliers et sortir. Donc, ce code de couleur qui était identifié d'une façon bien différente d'une résidence à l'autre, des fois que c'était un autocollant qu'on mettait sur la porte, on est venu l'intégrer à même la plaquette signalétique. Donc, en ayant toutes ces informations-là, on sait vraiment de quelle façon bien intervenir avec le résident ou la résidente.
J'imagine que vous avez dû travailler de pair avec les policiers de Victoriaville ainsi que l'équipe de pompiers.
Tout à fait. C'est vraiment un bel exemple de concertation, ce projet-là. Même qu'à l'origine, c'est une résidence de Victoriaville, la Villa Saint-Georges, qui voulait améliorer la qualité de vie de ses résidents, qui a dit « Nous, on a entendu parler de ce projet-là, on veut le mettre de l'avant. » Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire même un projet pilote avec cette résidence qui nous parlait de leurs préoccupations. Et on a assis à cette même table, comme vous l'avez mentionné, la sécurité publique, également la Sûreté du Québec. Donc, tous ensemble, on a travaillé. La ville de Victoriaville, j'ai ma collègue aussi en accessibilité universelle. Alors, on a fait une belle équipe pour en arriver à cette fameuse plaquette signalétique qui mentionne également le nombre de résidents dans le logement. Parce que, justement, notre partenaire, la Villa Saint-Georges, nous disait « Quand nous, on doit venir vérifier si le logement a bel et bien été évacué, c'est pratique de savoir est-ce qu'il y a un ou deux occupants dans le logement. » Et on a ajouté une petite languette qui nous permet, une fois tiré, d'identifier comme quoi le logement a bel et bien été évacué.
Jessica, je comprends la plaquette signalétique pour des personnes qui vivent en fauteuil roulant, par exemple, avec un déambulateur. À quoi on a pensé pour des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, par exemple?
tout à l'heure, j'ai nommé projet pilote. Pour nous, c'est important de le faire de cette façon-là, même si on savait qu'il y avait un beau succès du côté de Repentigny. Je pense qu'ils sont rendus à quelques 200, une vingtaine de résidences qui ont ce projet-là. Nous, on voulait le faire, ce projet pilote, pour ouvrir un dialogue avec les résidents pour voir est-ce que les pictogrammes, donc les trois catégories que j'ai nommées, sont suffisantes ou on a envie d'en intégrer une nouvelle. Donc, c'est sûr, pour tout ce qui est des problèmes cognitifs, on en a parlé, mais on ne voulait pas le mettre de l'avant tout de suite. On voulait voir les réactions des gens. Le projet a été lancé à la fin août, donc on est encore en mode laboratoire. Ça va perdurer jusqu'au printemps. On va récolter les commentaires. Et si les familles, les gens disent oui, ce serait pertinent, oui, on se sent à l'aise aussi de l'afficher, bien oui, fort probable qu'on pourra l'intégrer. Faut dire que tout ce qui est des pictogrammes se fait vraiment sur une base volontaire.
Vous vous êtes inspiré de Picto Sécure de Repentigny. De quelle façon vous l'avez adapté pour la ville de Victoriaville?
Bien, un peu comme je le mentionnais d'entrée de jeu, dans le cas de Repentigny, les pictogrammes étaient mis sur une porte à l'aide de Velcro. Et nous, on a davantage voulu en faire un outil complet, d'où l'idée de venir intégrer le code de couleur qui nous parle de l'autonomie, de mentionner le nombre de résidents et d'intégrer la fameuse tirette pour indiquer que le logement a été évacué. Donc, on l'a bonifié de cette façon-là, d'une part, pour l'outil physique et également en faisant comme un projet pilote. Il y a tout un autre volet qu'on veut travailler parce que, bien sûr, la sécurité, c'est l'élément principal de Picto Sécure, mais nous, on voit autre chose, c'est-à-dire tout le volet socialisation, apprendre à mieux se connaître pour mieux cohabiter ensemble. Donc, on part de la prémisse qu'on pense si les gens, le voisin connaît mieux la voisine, va dire, bon, bien, si elle ne me répond pas quand je lui parle, c'est peut-être parce qu'elle ne m'entend pas bien. OK, on se comprend mieux, on va travailler un peu différemment.
Ouais.
La même chose pour les nouveaux employés dans une résidence. C'est étonnant pour les résidents de toujours expliquer quelles sont leurs limitations physiques. Là, d'un rapide coup d'œil, on va le savoir. Même chose pour les familles, etc. Donc, le volet socialisation, on est venu le bonifier avec un partenariat avec la Villa Saint-Georges où il y aura une série de conférences où on va aborder ces limitations physiques, on va parler des outils qui existent, puis on va parler de la réalité. Donc, on va jaser beaucoup finalement. Tout le volet socialisation, c'est un ajout qu'on a fait du côté de Victoriaville.
Et en même temps, Jessica, une personne aînée qui se sent en sécurité a plus tendance à s'impliquer dans sa communauté. Et je trouve que Victoriaville, en mettant de l'avant Picto Sécure, lance un message très fort à sa population en disant, oui, d'une part, on vous veut en sécurité, en santé, mais parce qu'on a envie que vous soyez partie prenante de notre vie, de notre quotidien.
Ah, tout à fait. La ville de Victoriaville reconnaît vraiment la contribution des aînés, que ce soit par leur talent, leur savoir-faire, toute l'aide qu'ils peuvent apporter, je pense, aux bénévolats. Puis ce qu'on veut, c'est être une société inclusive qui permet à tous de pouvoir s'impliquer puis développer son potentiel. Donc, vous avez bien lu tout ça. Effectivement, c'est le message qu'on veut envoyer.
En terminant, le projet pilote a comme visée de munir 300 logements d'une plaquette signalétique. Vous en êtes où dans cette installation? Bon, on comprend que ça fait quelques semaines, là, seulement que vous avez démarré.
Oui, c'est ça, on est au tout début, mais l'installation des plaquettes est pratiquement terminée. On s'était mis le mi-octobre au maximum, donc on est vraiment dans nos dernières installations. Okay. Et comme je vous disais, au cours des prochaines semaines, on va commencer les conférences. Et faut dire aussi que dès le début du processus, on est allé rencontrer les résidents. Donc, on n'a pas installé les plaquettes comme ça. On a fait deux rencontres d'information où les résidents, où les familles étaient présentes. Et déjà, le dialogue a commencé. Tout à l'heure, vous nous avez demandé, est-ce qu'il y aura un pictogramme, par exemple, pour l'Alzheimer? Bien, déjà, un monsieur dans la salle a levé la main en disant, pourquoi il n'y a pas un pictogramme pour les problèmes d'allocution, par exemple? Donc, c'est déjà mis dans la mijoteuse à idée, si je peux dire ainsi. Et on va prendre les commentaires. Il y aura aussi une évaluation qui sera faite à la toute fin pour nous donner une bonne idée dès le printemps. Mais déjà, je peux dire que le téléphone sonne beaucoup, que ce soit de la part des autres résidences, même des villes avoisinantes qui veulent implanter le projet. Donc, je pense que c'est un projet qui va rayonner.
Ouais. Et pour les proches, la famille de ces aînés, ces personnes aînées, ça doit être assez sécurisant aussi de savoir que Picto Sécure est là pour veiller un peu.
Oui, vraiment. Puis moi, j'ai un témoignage qui m'a tellement fait du bien à entendre quand on a fait cette rencontre d'information. Une dame dont la maman fait partie de la résidence de la Villa Saint-Georges et elle me disait qu'elle avait été bénéficiaire, aide aux bénéficiaires toute sa carrière. Donc, elle a travaillé beaucoup avec les aînés. Puis elle a dit, j'aurais tellement aimé avoir ça, moi, quand j'avais ma carrière. Elle dit, c'est tellement aidant. Puis c'est rassurant maintenant, moi, que je sais que ma maman est dans une résidence pour personnes âgées. Elle voyait toutes les possibilités, oui, pour la sécurité, mais aussi pour la socialisation.
Et en terminant, quelle sera la suite? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes, Jessica?
Bien, on veut que ça fasse boule de neige, puis pourquoi on a fait un projet pilote, c'est qu'on veut documenter notre démarche. Donc, chacun des pictogrammes, de rapide coup d'œil, on sait la mobilité réduite, qu'est-ce que c'est, mais on veut vraiment venir le détailler pour que le projet, quand il sera implanté ailleurs, conserve la même base pour qu'on ait vraiment un cadre de référence et qu'on soit très pertinent dans nos interventions futures.
Jessica Dessureau, vous êtes chargée de projet pour la politique des aînés et la politique familiale du côté de Victoriaville. Oui, merci de nous avoir parlé de ce projet pilote qui est PictoSécure.
Ça fait vraiment plaisir. Bonne journée à tous.
Au revoir.
Si le projet PictoSécure, dont il vient d'être question dans l'émission « C'est bon pour la santé », animée par Marianne Paquette, vous intéresse, vous pouvez consulter simplement le site de Victoriaville pour obtenir plus d'informations. Cette semaine, à l'émission Des livres pleins les oreilles, il y avait Nicole Trudeau. Et la particularité de Madame Trudeau, c'est qu'elle lit encore en braille. Et d'ailleurs, elle nous fait une démonstration très touchante d'une lecture d'André Imakine, extrait de « Au temps du fleuve amour ». Et Nicole, avec vous, j'aurais dû peut-être aujourd'hui rebaptiser l'émission des livres sur le bout des doigts.
Oui, bonjour.
Bonjour Nicole. Parce que vous, c'est en braille hein, que vous lisez.
Ben, je lis principalement en braille. J'écoute aussi, mais disons que j'ai une affinité et une préférence pour lire dans le texte lui-même en braille.
Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Ben, peut-être d'une part parce que j'ai l'habitude et d'autre part parce que personnellement, je me sens dans une communion plus grande quand je touche le texte, quand je peux moi-même donner le rythme à mon texte.
Oui, je peux comprendre ça, tout à fait.
Et bon, c'est principalement pour cette raison-là. Je me suis toujours posé la question, je me dis... Non, il me semble que le texte m'appartient davantage quand je peux le toucher, le lire moi-même. Puis bon, évidemment, il y a l'orthographe.
Oui.
Mais je crois que c'est l'intimité et c'est mon souffle, hein, mon rythme.
Mais je trouve ça très intéressant. Je suis très contente de vous avoir posé la question. Nicole Trudeau, vous nous parlez d'un livre d'André Imakine. Aujourd'hui, je vous laisse le soin de nous le présenter.
D'abord, c'est le titre, c'est « Au temps du fleuve amour ».
Oui.
C'est pas le premier livre que je lis de Imakine.
Non.
Ce livre, la façon, au fond, qui m'intéresse le plus de vous communiquer, c'est l'impact, le choc émotionnel que la qualité de la langue et la qualité de l'écriture m'a suscité chez moi. Oui, l'histoire, bien sûr, mais c'est peut-être pas sur cet aspect-là que
vous nous amenez.
J'aimerais insister davantage, c'est vraiment sur la beauté de la langue. Je me dis toujours, quand je lis, je me dis, oh, comment un homme qui, le français n'est pas sa première langue, hein, oui. Parce que Makin est né en Sibérie, il a appris le français, il l'a étudié très très jeune, il a même écrit sa thèse de doctorat sur le roman français contemporain.
Oui.
Mais il a quand même vécu en Russie jusqu'à 30 ans. Maintenant, à partir de l'âge de 30 ans, il est en France.
Oui.
Et je me dis, mais comment on peut écrire avec une telle souplesse, un tel raffinement, une telle image, une langue qui n'est pas sa langue première? Ça, pour moi, là, c'est comme une admiration. Je suis portée à dire, pour moi, Makin, c'est comme un peintre des mots.
Oh, très joli.
C'est comme un magicien. Il a cette capacité de susciter, pour moi, des images et de faire surgir des émotions. Alors, j'avais pensé, peut-être principalement, peut-être vous proposer quelques images, en fait, telles qu'il les a écrites.
Fantastique, Nicole, fantastique.
Bon, peut-être l'histoire quand même, là, ces trois jeunes adolescents qui... C'est sûr qu'André Makin, sa langue est magnifique, mais c'est sûr que c'est aussi un auteur avec beaucoup de substance, beaucoup de profondeur. Mm-hmm.
Oui.
Il parle de l'État, bon, de l'Union soviétique.
Mm-hmm.
Il y a des côtés durs, hein, assez rudes dans son écriture. Mais moi, ce qui m'a vraiment suscité là, une grande émotion, c'est la qualité de sa langue, surtout.
Alors, nous sommes quand même, puisque vous l'avez dit, on est obligé quand même d'évoquer, entre autres, cette froide et blanche Sibérie natale pour Makin. Hein?
Tout à fait.
Non loin du fleuve Amour, comme le dit le titre.
Oui, alors peut-être je peux vous proposer, si vous voulez bien, un premier extrait, justement, qui
D'accord.
dit un peu l'ambiance hivernale. Et puis, peut-être aussi, là, j'ai relevé aussi un très beau passage sur le fleuve Amour. Mais dans son livre, le fleuve Amour, bien sûr, c'est un des plus grands fleuves de Sibérie.
Mm-hmm.
Mais pour lui, il y a aussi une charge symbolique, l'amour, la découverte de l'amour
oui.
pour les adolescents, etc.
Oui, c'est ça.
Et la fascination de l'Occident, etc. Alors, si vous voulez, je peux lire un premier extrait, puis si c'est trop long, vous m'arrêtez.
D'accord, Nicole. Si j'ose.
Dans la forêt, il faisait encore nuit. La neige était tantôt dorée par la lune, tantôt intensément bleue. Chaque jeune sapin rappelait une bête aux aguets. Chaque ombre était vivante et nous observait. Nous parlions peu, n'osant pas rompre le silence solennel de ce royaume endormi. De temps à autre, une branche de sapin se libérait d'un grand chapeau blanc de neige. Nous entendions son frôlement assourdi, puis le bruit étouffé de sa chute. Et les cristaux voltigeaient encore longtemps sous cette branche réveillée et s'érisaient en paillettes vertes, bleues, mauves. Et tout se figeait de nouveau dans la somnolence argentée de la lune. Parfois, nous percevions ce léger frôlement, mais toutes les branches restaient immobiles. Nous tendions l'oreille des loups et, au-dessus de la clairière, nous voyions passer l'ombre d'un hibou. Le silence était si pur que nous croyions sentir la densité et la souplesse de l'air glacé qu'incisaient les grandes ailes grises de l'oiseau. Alors, tu sais, pour moi, là, il y a,
ben oui.
bon, il y a la vue, il y a aussi l'audition, hein,
oui.
l'ouïe. C'est ça, oui. je me dis, il sollicite
les images.
Oui. Tous les sens. Un peu. Tu sais, quand on parle ici, le silence était si pur que nous croyons sentir la densité
oui.
et la souplesse de l'air glacé.
Oui. Oui,
cas,
c'est...
Pour moi, là, ça, c'est des images que je trouve absolument admirables.
Et vous savez, ce qui me fascine aujourd'hui, et je le dis souvent dans cette émission-là, c'est qu'il y a parfois des espèces de hasards, de coïncidences, qui font que tout d'un coup, deux univers se rencontrent sans que, évidemment, je n'ai fait quoi que ce soit pour que ça arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'en face de moi, j'ai une auteure que vous allez découvrir quand vous écouterez cette émission-là, dans deux semaines, hein, quand elle sera diffusée, qui, elle, nous amène au Nunavik. Et je vous jure que dans certaines pages, lorsqu'elle décrit la toundra, que ce soit en été comme en hiver, évidemment, ce n'est pas la même écriture, mais Madame l'éveillé Trudel qui est là, si vous aimez les beaux mots, ne ratez pas ce livre-là, Nicole Trudeau, parce que c'est vraiment une magnifique écriture. Je regrette parce que là, elle est là. Alors, du coup, elle est toute rouge, pauvre chouette. Mais si elle n'avait pas été là, j'aurais dit exactement la même chose. Et y a une parenté entre ces deux univers, évidemment, entre cette Sibérie lointaine et si glaciale et le Grand Nord. Hein.
Oui, cette capacité de dire et au fond de peindre, pour moi, c'est
oui.
beau. Ici, c'est comme si c'était les couleurs pour peindre. Hein?
Oui, oui.
C'est-à-dire,
oui.
En lisant ça, je vois le paysage, je le sens, je l'entends. Et quand je lis Makin, et peut-être qu'avec Madame, ce sera la même chose, j'ai le sentiment de toujours être en lumière. Hein.
C'est je comprends.
La belle lumière d'hiver, le beau soleil d'hiver.
Absolument.
Alors, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça me fera plaisir de découvrir l'ouvrage.
Oui. Alors, ça s'appelle, je peux déjà vous le dire, ça s'appelle Nirlite. Nous allons en parler ensemble dans quelques instants. Ça s'écrit Nirlite. Ça veut dire les oies, hein, si je ne m'abuse. Et voilà. Je suis convaincue que vous allez apprécier beaucoup la littérature. Pardon?
L'œuvre est déjà enregistrée?
Oui, l'œuvre est déjà enregistrée. Alors, elle est sortie, elle est parue dans les nouveautés, là, il y a un mois à peu près. Alors, oui, elle est tout à fait disponible.
Je vais demander qu'on le fasse en braille.
Oui, ben oui, absolument. Et merci. Merci pour cette expérience parce que je depuis longtemps, j'étais un petit peu gênée finalement lorsqu'on ne parle que de livres audio. Les gens qui écoutent des livres, ils ne peuvent pas nous lire d'extraits. Et vous, en braille, et ça a été une expérience de radio dont je me souviendrai longtemps, Nicole, et qu'il va falloir que nous renouvelions.
Ah ben, ça me fera plaisir.
D'accord. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On va quand même rappeler le titre de ce livre, « Au temps du fleuve Amour, comme l'amour », d'Andrei Makine, M-A-K-I-N-E. Merci, Nicole.
Je vous en prie.
Voilà, je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que l'émission « Des livres plein les oreilles » est diffusée le jeudi à midi et en reprise à 17h sur Canal M. Pour finir, voici quelques nouvelles extraites des paractualités telles que je les ai lues cette semaine à 11h30. Et je vous rappelle que d'ailleurs les paractualités, c'est en reprise également à 18h. National maintenant, le gouvernement du Canada lance un appel de propositions visant à favoriser l'inclusion sociale des Canadiens handicapés. Le gouvernement du Canada travaille pour offrir aux Canadiens handicapés une plus grande accessibilité et de meilleures possibilités dans leur collectivité et dans leur milieu de travail. Et à cette fin, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Quattro, a invité aujourd'hui les organismes nationaux sans but lucratif qui se penche sur les questions touchant les personnes handicapées. Quand je dis aujourd'hui, c'était le 22 septembre dernier, mais c'est encore vrai et bon jusqu'au 3 novembre prochain. Donc, elle a invité aujourd'hui les organismes nationaux sans but lucratif qui se penchent sur les questions touchant les personnes handicapées à présenter une demande de financement dans le cadre de l'appel de proposition pour la composante « Personnes handicapées » du programme de partenariat pour le développement social. L'acronyme PPDS, trait d'union, PH. Dans le cadre de ce processus concurrentiel, les organismes nationaux admissibles œuvrant auprès des personnes handicapées auront 6 semaines, autrement dit jusqu'au 3 novembre 2016, pour présenter une demande de financement pour des projets novateurs visant à cibler, à élaborer et à mettre à l'essai des pratiques et des outils prometteurs qui favorisent l'inclusion sociale des personnes handicapées. Ces pratiques et ces outils peuvent être nouveaux ou prendre appui sur des programmes et des services existants. Alors, comment on fait? Eh bien, on se rend le plus simplement du monde sur la page de l'acronyme, autrement dit PPDS, trait d'union PH. PPDS, trait d'union DH, et tout cela se retrouvera sur notre site. Si vous avez entendu un petit pop, c'est parce que j'ai simplement surligné l'adresse de ce site web pour être sûr qu'il apparaisse bien sur notre page. Vous savez comment on y va, hein, sur CanalM, canalm.vusevoix.com. Et puis ça, permettez que je prenne les dernières minutes qui nous restent pour vous en parler parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Afin de souligner la Journée mondiale des sourds, qui se tient aujourd'hui, la presse s'est rendue à Toronto pour témoigner d'une initiative qui fait énormément jaser. En fait, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, c'était en fin de semaine. Mais j'ai trouvé l'article en fin de semaine dans La Presse Plus, écrit par Samuel Larochelle. Les serveurs dans ce restaurant n'y prononcent pas un mot. Les clients utilisent leurs bras, leurs mains et leurs 10 doigts pour passer une commande. Et en retrait, il y a le propriétaire qui s'appelle Anjan Manikumar qui observe la scène avec un éclat de fierté dans le regard. Grâce à lui, la ville Rennes est dotée du premier restaurant canadien employant une majorité d'employés sourds. Il y a quelques années, alors qu'il était gérant d'un Boston Pizza, l'entrepreneur canadien d'origine indienne a réalisé que l'un de ses clients était sourd. Celui-ci devait montrer du doigt tout ce qu'il désirait, mais sans pouvoir poser de questions. Nous n'avions pas une bonne interaction et je sentais qu'il n'obtenait pas le service qu'il méritait. J'ai donc décidé de m'initier au langage des signes avec des vidéos sur l'Internet, de nous dire cet homme, je vous rappelle son nom, M. Manikumar. Et ensuite, eh bien, il a tenté de signer avec lui la semaine suivante et les semaines d'après. Évidemment, il s'améliorait toujours. Alors ensuite, eh bien, écoutez, il a fait un appel d'offres. Il a reçu des centaines, il y a des centaines de serveurs sourds, oui, qui sont venus. Évidemment, ils ne pouvaient pas faire d'entrevue téléphonique. Alors, ils sont venus au restaurant, ils se sont présentés. Et maintenant, on peut aller manger dans ce restaurant-là qui s'appelle Sings, ou Signs, S-I-G-N-S, pardon, c'est à Toronto. C'est une expérience qui exige une bonne dose de détermination, mais comme il dit, il n'a jamais lâché prise. C'est au-delà de 13 000 CV qu'il a reçus de partout sur la planète. C'est incroyable. Alors, Sings chez Toronto. Voilà, c'était le National. Ici Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous remercie d'être là et qui vous remercie aussi de faire courir le bruit que Canal M, c'est votre radio.